Un peu d'avance, ben oui, je comprends, Martin. Je comprends la game dans la game très, très bien. Puis vous êtes dans la game avec Alex Langteau puis Oli Guillet jusqu'à 14h aujourd'hui. C'est le moment d'aller jaser football. Les Alouettes qui ont été surpris par les Elks d'Edmonton et Cody Fajardo vendredi soir. Et honnêtement, c'est difficile de voir les Alouettes avoir de la difficulté comme ça en ce moment. Renaud Bourbonnais, comment ça va, mon ami?
Salut, ça va bien, mon gars?
Good, merci de t'avoir devancé un peu. On a de l'avance dans l'émission d'aujourd'hui. Je suis bien content, ça va nous donner plus de temps pour se jaser ensemble. C'est quoi ton analyse de ce match-là? Parce que la question que moi je posais avant la pause, c'est est-ce que McLeod Bethel-Thompson a peut-être disputé son dernier match dans l'uniforme des Alouettes?
C'est pas impossible. Je suis pas encore prêt à te dire un nom complet parce que... on n'est pas encore de retour à l'entraînement. Les Alouettes jouent seulement samedi prochain en Colombie-Britannique. Mais moi, j'ai bien l'impression qu'on va procéder à un changement là, chez les Alouettes. C'est assez simple. En première demi, oui, il y a eu des points marqués par les Alouettes, mais faut pas oublier, ils ont été inscrits par les unités spéciales. Travis Tice qui a marqué sur un retour de beauté, qui a marqué un touché. Et ensuite, on se dirigeait à la mi-temps chez les Alouettes. On se disait, on va avoir une avance confortable. On est en position d'aller chercher 3 points supplémentaires. Et là, McLeod Bethel-Thompson, qui a forcé un jeu, qui a lancé une passe qu'il n'aurait pas dû lancer, qui a été intercepté, qui a été retourné par Tyrell Ford pour un toucher. Ça fait en sorte qu'on est rentré au vestiaire, puis finalement, on a fait, c'est un match vraiment serré, alors que les Alouettes devaient s'en sortir à bon compte de la mi-temps. Puis la mission de McLeod Bethel-Thompson, en l'absence de Davis Alexander, en fait, la mission de n'importe quel KR réserviste quand il est envoyé dans la mêlée à cause d'une blessure, c'est donne une chance à ton équipe de gagner, évite les revirements, évite d'être la raison pour laquelle on perd. Mais McLeod Bethel-Thompson, avec cette erreur-là, il a complètement ouvert la porte aux Elks. On l'a remplacé en deuxième demi. Puis je te dis pas que Caleb Evans a été exceptionnel, mais je peux te dire qu'il a été bien meilleur que McLeod Bethel-Thompson.
Puis, moi, c'est parce que la question qui me vient en tête, c'est quelle décision on va prendre, en vue du prochain match, et deux, pourquoi McLeod Bethel-Thompson n'arrive pas à prendre les bonnes décisions quand on y ouvre la porte comme ça d'avoir un rôle de partant? Je veux dire, ça fait deux matchs où c'est plus compliqué. Puis c'est une défaite qui fait mal parce que au final, c'est Cody Fajardo qui te l'inflige, cette défaite-là.
Exact. Puis il faut pas oublier, les deux ont été échangés un contre l'autre. Et Cody Fajardo, ça fait trois matchs maintenant qu'il joue avec les Elks comme partant.
Ouais.
Le premier a été plus difficile. Là. La production est surtout venue au quatrième quart alors qu'on tirait de l'arrière. Les deux derniers matchs, ils ont été bons de la part de Cody Fajardo. Puis je pense que n'importe quel observateur qui est un fan de football canadien savait depuis le début de l'année que Cody Fajardo devait être le partant du côté de Edmonton.
Ouais.
Jason Moss a toujours dit que ce joueur-là, qui a connu en Saskatchewan, qui a connu à Montréal, avec qui il a gagné une Coupe Grey à Montréal, était à son meilleur dans les moments où ça compte. Puis Cody Fajardo, plus la fin de match approchait vendredi, plus il était bon. Ça serait injuste de dire que c'est juste la bataille des carrières qui a fait en sorte que le match a balancé du côté de Edmonton, mais ça jouait évidemment là, un facteur important.
Absolument. Puis juste pour ajouter à l'insulte, c'est Keon Julian Grant, qui est un ancien des Alouettes aussi, qui a inscrit deux touchés, dont le touché victorieux en fin de match. Là, ça s'est joué avec seulement 15 secondes, parce que je me souviens, vendredi soir, un ami me demandait « Hey, c'est combien les Alouettes si tu finis? » Puis j'ai répondu « Ah non, 22-17, il reste une couple de secondes. C'est pas fini encore, c'est pas joué. » Puis quand je me suis levé le lendemain matin, que j'ai re-regardé le score, j'ai vu la défaite, j'ai fait « Bon, j'avais bien raison. » C'était pas terminé, mais de savoir que c'est des anciens Alouettes en plus, ça fait mal. Et tu me dis que Bethel-Thompson n'est pas le seul à blâmer. Qu'est-ce que tu as retenu d'autre de cette rencontre-là?
Il y a eu un échappé. Tyler Snead qui a sorti un botté de la zone début qui aurait pu tout simplement mettre le genou au sol dans la zone début, donner un bon positionnement à son équipe. A décidé de sortir le ballon, protégeait mal le ballon. Il a été frappé, il a échappé. Ça a donné une possession à la ligne de 8 dans le territoire des Alouettes. À Edmonton, que c'est là où Keon Julian Grant a marqué son premier de deux touchés. Donc ça, c'est une erreur qui a ouvert la porte. Mm-hmm. Puis, autant ce qu'on a vanté aux Emaltos au cours des dernières semaines, puis avec raison. Puis c'est vraiment... Je suis vraiment pas en train de lui mettre tout le poids de la défaite sur les épaules, mais il a raté un converti d'un point en deuxième demi qui, visiblement, a coûté un point aux Alouettes. Et quand on regarde le score final, ça s'est joué par un point. C'est facile de dire qu'il aurait pu forcer une prolongation là, avec sa beauté-là, mais tu sais, José Maltos, on lui parle pratiquement toutes les semaines, surtout au cours des dernières semaines avec le succès qu'il a eu. Puis lui, malgré ses placements là, de 50 plus verges, arrêtait pas de nous dire, les bottés les plus importants, c'est ceux après les touchés. Ce sont les points d'extra après le toucher. Là, je suis convaincu, ben pas convaincu, je peux te garantir, il s'en veut là, d'avoir raté ce botté.
Ben c'est sûr et certain, puis sachant que les Elks sont au dernier, à l'avant-dernier rang de la LCF en ce moment, c'est un match qui était accessible dans des moments qui sont plus difficiles aussi pour Montréal avec la panoplie de blessés. On en est où avec, je veux pas te lancer le balcon, mais on en est où avec les blessures en ce moment chez les Alouettes? Est-ce qu'on a des retours qui sont attendus? Est-ce qu'on a eu des nouvelles de Marc-Antoine de quoi qui pourrait peut-être pouvoir jouer premièrement samedi alors qu'on va affronter les Lions qui ont une fiche de 4 et 5 aussi, les Alouettes 5 et 4 maintenant avec la défaite de ce week-end, parce que honnêtement on doit commencer à chercher des solutions pour relancer cette équipe-là là, qui a encaissé deux défaites de suite.
Non, tu fais bien de le demander, c'est vrai que là il y a la quantité de blessés je te dirais surtout qui fait mal plutôt que les individus en tant que tels pour les Alouettes. Non, on n'a pas de nouvelles pour l'instant, mais faut mentionner là, que l'entraînement reprend seulement mercredi chez les Alouettes. Donc, probablement que mercredi, là, on va avoir des réponses. On va savoir qui est sur le terrain à l'entraînement et où non. Et surtout, on va avoir une bonne idée là, de qui va pouvoir jouer le match de samedi prochain en Colombie-Britannique, où je te rappelle que c'est un environnement extrêmement hostile pour les Alouettes historiquement.
Oui. Je vais t'en poser une dernière Alouette avant qu'on passe vers la NFL. Renaud, ce matin, Richard Labbé dans le club était censé recevoir Danny Machocha et finalement, on a annulé l'entrevue et on a envoyé une autre personne à sa place sous prétexte que Danny avait était dans un meeting et n'était pas capable de s'en sortir en ce moment. Qu'est-ce que tu penses qui se brasse en ce moment dans le bureau des Alouettes?
Excellente question. Honnêtement, j'étais pas au courant de cette information-là, donc merci de me mettre au fait. ceci étant dit, regarde, le mois d'août, c'est un mois extrêmement occupé pour les directeurs généraux dans la Ligue canadienne de football. Il y a beaucoup de recrutement qui se fait par rapport au... il y a les coupures dans les camps de la NFL, donc les joueurs qui soit étaient dans la LCF, ont tenté leur chance dans la NFL, mais qui là sont ouverts à revenir, ou juste des joueurs qui peuvent venir faire un premier passage dans la Ligue canadienne. On sait que c'est une période extrêmement importante pour donner un souffle en deuxième moitié de saison. Puis on l'a mentionné tout à l'heure, au nombre de blessés qu'il y a chez les Alouettes présentement, faut pas se surprendre là, de vouloir appeler des renforts au moment où on se parle. Donc le mois d'août, c'est sûr que c'est un mois extrêmement occupé là pour Danny Machocha. Donc c'est probablement ça là, qui l'a tenu occupé.
Marc, sur la messagerie texte, propose de faire revenir Jonathan Sénécal au sein de la formation. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une option en dernier recours? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait possiblement aider l'équipe de donner la chance à un jeune Québécois le temps qu'on retrouve Davis Alexander, ou on doit attendre encore que Sénécal se développe un peu plus?
Ben, c'est que je vois pas en quoi est-ce que donner le ballon là, à un joueur qui a aucune expérience dans la Ligue canadienne de football, que même, j'ai envie de te dire, quelques jeux de matchs préparatoires et quelques jeux à l'entraînement derrière la cravate, on peut pas espérer qu'il arrive en sauveur. Puis la vérité, c'est que, bon, outre McCall, Bethel Thompson et Davis Alexander, il reste quand même deux corps arrière sur l'alignement des Alouettes qu'on a préféré à Jonathan Sénécal au camp d'entraînement. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ramènerait un joueur coupé qui s'est pas entraîné avec l'équipe depuis des mois au détriment là, de joueurs qu'on a sélectionnés devant lui là, lorsqu'on avait le choix entre les joueurs.
OK, Renaud, je t'amène du côté de la NFL maintenant. C'est le retour de Geno Smith à Seattle. Et ça s'est terminé en match nul 23-23 face aux Raiders, entre les Raiders et les Seahawks. Comment ça s'est passé ce moment-là? Parce que tu m'écris un beau doigt d'honneur, un partisan des Seahawks.
Ouais, ben écoute, c'est littéralement un doigt d'honneur. Geno Smith est sorti du tunnel des joueurs. Il y avait un partisan qui avait une pancarte disant Geno Smith, un des plus gros flops de l'histoire, avec Jamarcus Russell, bon, qui est un autre flop de l'histoire, qui est un flop dans l'histoire là, des Raiders. Ouais. Et Geno Smith qui a simplement sorti les doigts d'honneur, qui a flippé, comme on dit, là, le partisan en question. Puis après le match, on a posé des questions à Pete Carroll, son entraîneur-chef, qui lui aussi faisait un retour à Seattle là, avec les Raiders, à savoir, c'est un geste inapproprié, nanana. Pete Carroll a dit, écoutez, avez-vous vu ce qui était écrit sur la pancarte? Comment vous auriez réagi, vous, à sa place? Prochaine question. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec ça. Écoute, je dis pas que j'encourage les joueurs à commencer à aller dans une bagarre, mais à un moment donné, dans la vie, quand tu te fais insulter, quand les gens prennent des attaques gratuites contre toi, t'as le droit de répliquer. C'est pas comme si Geno Smith était sauté dans la foule pour se battre avec le partisan.
Mais non,
il a fait passer
plus.
Son message. Je pense que le message a passé, puis on peut passer à un autre appel.
On passe à un autre appel dans cette situation-là. Un autre match qui retenait ton attention, ben c'était certainement celui des Browns avec l'apparition de Shedeur Sanders en place dans ce match-là. Belle performance dans son cas, victoire de 30-10 sur les Panthers.
14-23, il est allé chercher 138 verges par la passe, 2 passes de toucher. Il n'a pas été victime d'interception. Écoute, c'est un match préparatoire, on joue contre des réservistes, mais quand même, j'ai trouvé ça encourageant. Surtout qu'on a tellement une grosse lutte présentement et tellement d'incertitudes au poste de carrière du côté des Browns de Cleveland que n'importe quoi de positif, on va le prendre. Puis Shedeur Sanders, il a été extrêmement critiqué depuis qu'il est arrivé au camp des Browns de Cleveland. Chaque fois qu'il connaît une mauvaise pratique, on le souligne. Il y a même des journalistes qui sortent ses statistiques à l'entraînement pour justifier si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée de l'amener à Cleveland. Et après le match, Shedeur Sanders est allé voir un journaliste de la presse de Cleveland. Puis il l'a fait en riant, là, il l'a fait avec un sourire au visage, mais il a dit « Là, pouvez-vous pour une fois écrire du positif sur moi? J'ai bien joué. » Lui-même a qualifié sa performance de bonne sans plus, là. Mais quand même, de dire « Arrêtez d'écrire du négatif, là. C'est pas vrai que je suis un bon à rien. Je suis capable d'offrir du bon football. » Je pense que je l'ai prouvé ça.
Renaud, les Panthers, c'est un peu la risée de la NFL l'année passée. À quoi ça devrait ressembler, cette formation-là, cette année? Est-ce que ça s'est un peu amélioré?
Ben écoute, tu sais, il y a 2 ans, ça avait vraiment été une catastrophe au début de Bryce Young. L'an passé, ça a mal commencé. Bryce Young a été cloué un banc à un certain moment. Mais là, quand il est revenu au jeu, on a vu cette équipe-là commencer à avancer avec le ballon, commencer à montrer des signes. C'est sûr, la défense est pas bonne. Il n'y a pas beaucoup de talent dans cette unité défensive-là. On commence à en ramasser un peu en attaque. On a sélectionné un receveur, Tetorio McMillan, avec notre premier choix cette année dans le top 10. Écoute, je suis pas prêt à dire que c'est une équipe qui va se battre pour les éliminatoires cette année. Ils sont dans une division faible en plus, mais je pense qu'on est rendu à une étape où on peut penser jouer pour 500. Puis si on connaît une autre bonne saison morte la saison prochaine, peut-être qu'on va pouvoir commencer à parler d'éliminatoires. Donc, c'est une équipe que j'ai envie de dire qui va dans la bonne direction. Dave Canales, leur entraîneur-chef, moi, c'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Puis l'an passé, il nous a prouvé que c'est vrai qu'il est capable de changer la culture là, au sein d'une équipe. Je pense que c'est une équipe qui va vers la pente ascendante, là, mais qui n'est pas encore tout à fait arrivée là, au résultat.
Les Patriots sont sérieusement sacrés une volée aux Commanders. Ouais. 48-18. Il y a 2 jeunes recrues qui ont retenu ton attention dans ce match-là.
Ouais, Travion Anderson, porteur de ballon, qui a été repêché cette année par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est pas compliqué. Sa première touche dans le match, la première fois qu'il a touché au ballon, c'était pour un retour de beauté. Il l'a ramené sur 100 verges, a marqué un touché. Et plus tard, on a vu là, quelques autres jeux assez intéressants. Bon, une course de 18 verges. Tu me diras qu'une seule course ne fait pas une carrière. C'est vrai. Mais ça m'amène à mon deuxième joueur qui a été impressionnant. Will Campbell, le premier choix des Patriots, 4e au choix au total au dernier repêchage. C'est un bloqueur à gauche sur la ligne à l'attaque. Il est monstrueux. Les joueurs de ligne défensive qui se faisaient mettre les mains dessus pendant le match reculaient de 5 verges à chaque fois qu'il les touchait. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir en saison régulière. Pour moi, les Patriots sont peut-être l'équipe, à tout le moins parmi les équipes les plus améliorées de la saison morte. Puis j'ai pas encore fait mon classement final, là, mon idée finale sur qui participera aux éliminatoires. Mais si tu me le demandais aujourd'hui, je pense que les Patriots vont se prendre une place de wildcard puis participer aux éliminatoires l'hiver prochain.
Oh, c'est intéressant ça, parce que depuis le départ de Tom Brady, ça a tout le temps été un peu incertain du côté de la Nouvelle-Angleterre. Mais là, de les voir revenir comme ça dans le portrait, puis d'avoir comme ça un joueur de ligne défensive qui réussit à t'ouvrir le jeu, c'est certain que ça peut créer des opportunités pour les Pats. Renaud, je t'en lance une dernière avant de te laisser aller.
Yes.
Mais la question que je vais poser aux auditeurs au retour de la pause, c'est outre le début de la saison du Canadien, il y a plusieurs événements sportifs des débuts de saison qui s'en viennent. À quoi avez-vous le plus hâte? Toi, je sais que c'est la NFL, mais je vais te modifier ma question pour te demander qu'est-ce que tu as le plus hâte de voir dans cette saison de la NFL-là? Est-ce qu'il y a des surprises auxquelles tu t'attends? Est-ce qu'il y a des équipes que tu dis, hey, eux pourraient me surprendre? Je sais que tu viens de me parler des Patriots, mais qu'est-ce que Renaud Bourbonnais a le plus hâte de voir de cette saison de la NFL-là?
Ben, les Patriots, évidemment, sont peut-être ma plus grosse surprise, là, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens les placent nécessairement en éliminatoire. Je pense Je pense qu'il va y avoir une grosse compétition dans l'ouest de l'Américaine, une division qui est dominée depuis quoi, 10 ans là, maintenant par les Chiefs de Kansas City. Je suis pas certain que les Chiefs vont avoir la balade facile là, pour l'emporter cette année.
Okay.
Les Broncos de Denver se sont beaucoup améliorés l'an dernier. Ils ont montré une bonne saison. Ils ont participé aux éliminatoires. C'est une équipe qui avait pas beaucoup de trous. Ils ont pu amener beaucoup de talent durant la saison morte. Donc je pense que cette équipe-là des Broncos de Denver, lorsqu'on va voir les matchs entre Denver et Kansas City, il va en avoir deux comme à chaque année. C'est peut-être ces matchs-là qui vont déterminer qui va remporter la division cette année. Puis je pense aussi que c'est une saison extrêmement importante pour Patrick Mahomes. Et je m'explique. Bon, oui, son legacy est assez cimenté. Il a remporté déjà 3 Super Bowls, a participé au match 2 autres fois. Donc on le sait, il va aller au Temple de la Renommée et tout. Mais rappelle-toi, si on revient à il y a un an et pour nombre d'années avant ça, c'était clair. Au début de la saison, on t'a demandé qui est le meilleur carrière de la NFL. Facilement, on allait à peu près tous répondre Patrick Mahomes.
Ben oui.
C'est plus une réponse qui fait l'unanimité maintenant. Puis au cours des deux dernières saisons, les Chiefs, c'est pas par leur attaque que ça passait nécessairement. Puis Mahomes a montré des bonnes choses. Mahomes a quand même été bon. Mais il est plus dominant au niveau statistique comme il était en début de carrière. Là, pendant 2 ans, on a traîné puis on a dit « Ah, mais ces années-là, on est dans un cycle où c'est la défense qui porte l'équipe chez les Chiefs. » Et c'est bien beau et c'est vrai. Ceci étant dit, là, si on se rend à une troisième saison où la production est modeste pour Patrick Mahomes, je pense que les gens vont commencer à se poser des questions. En fait, je pense que les gens commencent déjà à se poser des questions présentement. C'est un bon carrière, il fait partie de l'élite, ça, c'est aucun doute. Mais quand t'as été le roi, quand t'as porté la couronne puis que t'as été au sommet de tout le monde dans une classe à part, c'est quand même un statement important là, quand on dit qu'à peu près tout le monde dit que tu n'es plus le carrière numéro 1 incontesté dans la Ligue.
Hâte de voir la réponse qui sera donnée de ce côté-là. Très intéressant. Renaud Bourbonnais, merci beaucoup d'avoir pris les quelques minutes avec nous ce matin. Puis certainement qu'on se rejase cette semaine, mon ami.